Vous êtes toujours sur le studio Kalangou, messieurs, dames, il est 18h, l'heure du journal en français avec Nafissa Adamou. Bonsoir et bienvenue. À présent, les titres de ce journal, 1 807 022 000 000 de francs CFA. C'est la prévision budgétaire pour l'année 2017. Les députés de la majorité et de l'opposition se prononcent sur ce montant. La session au cours de laquelle devait être débattue la question de la motion de défiance déposée contre le maire central de la ville de Niamey a été boycottée ce matin par les conseillers. Les raisons avec un conseiller de la ville de Niamey, Ali Mamane. Toujours à la ville de Niamey, les agents des collectivités territoriales observent depuis le lundi 21 novembre une grève de 5 jours sans service à minimum. Ces derniers réclament le paiement de 5 mois de salaire. Enfin, les statistiques, quelle importance et comment les utiliser? Réponse d'un enseignant-chercheur au département de mathématiques de l'Université de Niamey en partie magazine. Reprise des travaux en plénière ce matin à l'Assemblée nationale. Ordre du jour, l'examen et le vote du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2017. Une prévision du budget estimée à 1 807 022 000 000 de francs CFA. Selon le député Hama Hassan de la bannière RSD Gaskia, la majorité, il affirme que cette projection du budget 2017 est acceptable et réalisable.
Par rapport justement à toutes les prévisions, cas par cas, ministère par ministère, nous pensons que c'est un budget réalisable parce que déjà à la veille de l'exécution du budget 2017, nous avons constaté que le ministre concerné est en train d'abord d'engager des actions ardues en matière de mobilisation des recettes fiscales.
Telles que
chez les douaniers, on a vu que vraiment il y a eu un sérieux changement par rapport justement à des recettes qui étaient plus ou moins négligées. Et maintenant, comme on le dit, ils ont pris le taureau par ses cornes. Cela ne suffit pas. Il faudrait que tout un chacun prenne conscience, quand même tous les contribuables, quel que soit son bord, quelles que soient ses qualités et sa position, son statut, il doit pouvoir en tout cas régler ses impôts.
Pour Nassirou Halidou, député du groupe parlementaire Zamzam Loumana, la projection du budget 2017 est irréalisable. Il nous fait l'analyse de ce budget au micro de Diallo Maria Makenda.
Il y a une rubrique de réparation. Ils l'ont appelé grosse réparation d'un avion C-130. C'est un avion, un ancien avion qui nous a été gracieusement offert par un État ami. Ils ont dit la réparation de cet avion à 16 milliards, alors que l'avion tout neuf ne dépasse pas 12 milliards. En plus, comme si cela ne suffit pas, ils veulent encore réparer un autre avion C-130 à 4 milliards. Comme si cela ne suffit pas encore, la souffrance du peuple du Niger ne leur concerne pas. Ils veulent encore acheter un autre hélicoptère à 18 milliards. Le budget 2017, il n'y a qu'une variation de 2 milliards par rapport au budget 2016. Ça veut dire 1 809 milliards. Avec, je suis convaincu, un niveau d'endettement de 114%. Le budget réel du Niger tourne autour de 1 084 milliards, qu'on peut mobiliser de 75 à 80%. C'est ça le budget réel du Niger. Parce qu'il y a des taux que tu n'as pas dépassé. Le niveau d'endettement. Et le niveau d'endettement ne doit pas dépasser les 35% du budget national par rapport au PIB.
Clôture hier soir au palais de congrès de Niamey du premier forum de la CEDEAO sur l'éducation à la culture de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux. Selon le ministre de la Renaissance culturelle, l'objectif assigné à ce forum a été atteint. Assoumane Malemissa revient ici sur les recommandations faites à l'issue de ce forum. On l'écoute.
Ces engagements tournent autour principalement du renforcement de la tolérance interreligieuse, du renforcement du dialogue, à travers quoi on estime que ce forum doit être renouvelé, doit être un forum régulier et que la régularité, la périodicité de son organisation est laissée à l'appréciation des chefs d'État et des ministres en charge de la culture. Et le renforcement également des contacts interreligieux au sein même des religions aussi et et aussi de la nécessité de mettre en place un plan d'action qui va permettre de suivre ces recommandations et de garantir leur mise en œuvre dans tous les pays de la CEDEAO. Le plus grand problème qui doit être résolu, c'est le problème du respect du choix de l'autre.
Le ministre de la Renaissance culturelle, Assoumane Malemissa, que vous venez d'écouter. C'est en principe hier le dernier délai réglementaire pour la convocation du conseil censé débattre de la motion de défiance déposée contre le maire central de la ville de Niamey. C'est donc aujourd'hui que le maire Hassan Seydou a convoqué la session boycottée par les conseillers. Écoutez le conseiller de la ville de Niamey, Ali Mamane, au micro de Mokhtar Hamadou.
Je suis signataire de la motion de défiance et elle a été déposée le 8 novembre 2016 et elle doit normalement être discutée et débattue dans un délai de 15 jours. C'est la loi qui le dit obligatoirement. Or, il se trouve que le président du conseil de ville n'a pas daigné convoquer et nous nous sommes trouvés devant, si vous voulez, un blocage. Parce qu'il aurait fallu qu'il convoque au plus tard le 19 novembre, conformément à la loi, mais il ne l'a pas fait. Donc, c'est ça qui est à la base, naturellement, de ce blocage. S'il avait convoqué le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour ou même le 18e jour, ça aurait passé sans problème. Malheureusement, il n'a convoqué que le 22 et il a distribué la lettre le 23 au conseiller. Donc, ce qui fait que, de facto, voilà, l'illégalité est commise. Et de ce fait, elle n'est plus rattrapable parce que le conseil, il a fixé pour le 24. Et le 24, c'est en dehors de la période de 15 jours que la loi a dit, c'est obligatoire. Et s'il ne convoque pas, peut-être qu'il se considère déjà démissionnaire. Déjà, de facto, voilà, lui, il s'est considéré comme démissionnaire parce que n'ayant pas respecté la loi par stratégie peut-être, ou bien par naïveté.
Entamée le lundi 21 novembre, la grève de 5 jours des agents des collectivités territoriales de la ville de Niamey prend fin demain. Une grève observée sans service à minimum. Ces agents demandent toujours le paiement d'au moins 5 mois de salaire. Écoutons Mohamed El-Kébir Zakari, membre du SACOTEN, au micro de Mokhtar Hamadou.
Maintenant, on est dans notre 5e mois sans salaire. Pour ce qui nous a même amené à faire la grève de 5 jours, parce qu'on a commencé des grèves de 2 jours, on a fait des sittings, on a fait une marche. Bon, on a vu que maintenant, ça n'a pas abouti. C'est ce qui nous a poussé maintenant à faire une grève de 5 jours et sans service minimum. Tous les endroits où se trouvent nos agents, on a arrêté le travail. Même les cimetières étaient là, ne travaillent pas. Les manœuvres ne travaillent. Maintenant, si tu pars avec ton cadavre, tu sais toi-même qui vas faire creuser ton trou pour l'enterrer. On a maintenant à peu près 13 mois qu'on est en train de faire les grèves. Mais jusque-là, les autorités des villes ne nous ont pas approchés. On lance notre cri de cœur parce que le président de la République n'est pas le président seulement des agents de fonction publique, c'est le président de tous les Nigériens. Ce qu'on a à leur à lancer, de voir notre cas, parce que vraiment, on est fatigué.
Votre grève de 5 jours finit demain. Est-ce que vous allez reconduire un nouveau mode d'ordre de grève?
Oui, on va faire un nouveau mode d'ordre de grève parce qu'on est en train de suivre des stratégies. Ce sont des étapes. Inch'Allah, la semaine qui suit, on va voir ce qu'on va déposer.
Parlons éducation dans ce journal. À l'instar des autres organisations de la société civile francophone, le syndicat des agents de la formation et de l'éducation du Niger, SINAFEN, a lancé ce matin la campagne « Ne vendez pas l'éducation ». Ces organisations s'engagent à lutter contre la marchandisation de l'éducation. Elles ont d'abord lancé des appels aux États et institutions œuvrant dans ce domaine. Al-Mustapha Moussa, secrétaire général du SINAFEN, au micro de Assoumane Chine.
Aujourd'hui, c'est un mouvement mondial qui est mis en place, qu'on appelait le mouvement mondial pour la réforme de l'éducation. L'ambition de ce mouvement, c'est de privatiser l'éducation, c'est de considérer l'éducation comme quelque chose qu'on peut vendre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le slogan qu'on a avancé, c'est de dire « ne vendez pas l'éducation ». L'éducation doit être considérée comme un bien public, c'est un droit inaliénable. Il est inadmissible qu'aujourd'hui on permette à des entreprises de venir s'accaparer du système éducatif. Nous visons aussi à éliminer les établissements d'enseignement à but commercial qui sont en contradiction avec les droits de l'homme. Au-delà de ça, la déclaration s'adresse aux États agissant au niveau international dans le cadre de la coopération technique ou financière ou des institutions internationales. Elle s'adresse aussi à l'Organisation internationale de la francophonie où on demande à encourager les États francophones à développer le service public d'éducation selon les principes du droit international.
Al-Mustapha Moussa, secrétaire général du SINAFEN, au micro de Assoumane Achina. En juin dernier, la monnaie du Nigeria, la Naira, a perdu sa valeur vis-à-vis du franc CFA. Le Nigeria étant le plus grand partenaire commercial du Niger, quel impact cela a sur l'économie nigérienne? Les explications de El Hadj Yacouba Damaradi, président du syndicat des importateurs et exportateurs du Niger.
C'est un impact, on peut le considérer comme étant négatif sur l'économie en général et on peut le considérer aussi comme étant positif sur les ménages qui sont au niveau des frontières. Et le franc CFA aujourd'hui pèse beaucoup dans la change et le naira. Si vous pouvez amener votre produit et le vendre au Nigeria, donc quand vous allez la ramener, la naira, et que vous allez faire la change en franc CFA, en ce moment-là, vous serez surpris. D'ailleurs, pour cette raison que dans le temps, c'était nous qui achetions. Mais aujourd'hui, c'est eux qui viennent vendre. Et au contraire, quand c'est nous qui devrions aller acheter ce que je suis venu vendre ici, nous allons acheter avec une monnaie faible qui est la naira. Mais quand nous revendons, nous risquerons de revendre avec une monnaie qui est chère par rapport au naira. L'inconvénient, les Nigériens, ils nous déversent ces produits, même les produits que nous, on lui a amenés auparavant. Mais aujourd'hui, c'est eux qui amènent pour nous vendre ici chez nous. Et ça veut dire que, en fait, la population, elle s'appauvrit, le pays s'appauvrit. Mais l'acheteur, c'est une aubaine pour lui. Pour le moment, on peut considérer que la naira continue à acheter, selon la dernière évaluation. Donc, leur économie a encore perdu 2 points.
Le marcheur de la paix, Amadou Aboubakar, poursuit sa marche. Il a quitté aujourd'hui Damou pour Badegichiri, région de Tawa. Il avait quitté Niamey le 31 octobre passé pour se rendre à la fête d'Agadez Sokni qui se tiendra le 18 décembre prochain. Le marcheur a été joint ce matin au téléphone et selon lui, tout se passe bien et sera à Agadez avant le jour J. On l'écoute.
Actuellement, je suis à Damou, dans la région de Tawa. Je serai à Badegichiri, Inch'Allah. Bon, de Damou, Badegichiri, ça fait 27 km. Et je me suis levé à Damou, dans le 7h30. Badegichiri est un peu éloigné, 27 km. Inch'Allah, peut-être dans les environs de 1h le soir, peut-être je serai là. La marche, ça se passe bien. Dans les localités que je viens, dans les mairies, dans les préfectures, on m'accueille, on m'héberge, l'hébergement, restauration, tout est bon. Mon état de santé à Damou, j'avais eu un petit malaise là, j'avais bu un peu de la boule là. Après, j'ai commencé à vomir. On m'a amené au dispensaire, j'ai trouvé des comprimés. Et maintenant, Dieu merci, je suis en pleine forme. Tout peut à Dieu si je passe la nuit à Badegichiri. Le lendemain, je serai à Bagda, à côté de Tawa. Le lendemain, à Tawa. Et avant le 18, je serai à Agadez. Peut-être le 16, Inch'Allah. Vraiment, c'est une grande fierté pour moi, pour marcher pour la paix. Je souhaite que Dieu nous donne longue vie et santé pour nous montrer le jour du 18 décembre à Agadez.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
À présent, la partie magazine de ce journal, un bon nombre de domaines pour leur bon fonctionnement font appel aux données statistiques. Au Niger, l'Institut national de la statistique est l'organe central du système statistique. Il présente toutes les données et informations générales du pays. Ils sont nombreux ceux qui ignorent les statistiques. Alors, quelles sont son importance et quelle est son utilisation? Raylat Ousmane a posé toutes ces questions à Abdou Achoussou, enseignant-chercheur au département de maths à l'université de Niamey.
D'abord, la statistique, c'est un ensemble de méthodes dont l'objet est la collecte, le traitement, la description, l'analyse des données issues de phénomènes dits aléatoires, c'est-à-dire des phénomènes dans lesquels il y a des incertitudes. Et si on dit les statistiques, c'est l'ensemble de toutes les données afférentes aux phénomènes qui dépendent du hasard, dans lesquels on retrouve des incertitudes.
Et donc, quelle utilisation fait-on des statistiques?
De façon générale, les statistiques, on les utilise pour prendre la bonne décision. Dans une situation donnée, il faut pouvoir évaluer cette situation, l'analyser et pouvoir prendre la bonne décision. Bien sûr, l'utilisation aussi, il faut parler aussi de la prévision. On peut prendre les statistiques d'un phénomène en vue de faire des prévisions et établir, par exemple, un modèle d'alerte. Quelle autre utilisation? On peut aussi évoquer l'utilisation par les scientifiques pour faire avancer leurs travaux.
Quelle est l'importance des statistiques pour les décideurs nationaux et internationaux?
Les décideurs doivent toujours prendre en compte les données pour asseoir correctement leur politique. Ce n'est pas l'État le seul utilisateur. Il y a les organismes internationaux, effectivement, qui utilisent les statistiques aussi pour, leurs raisons politiques ou leurs raisons de stratégie pour les problèmes de santé, par exemple, pour les problèmes de climat, pour les problèmes socio-économiques.
Est-ce que les chiffres issus des statistiques sont fiables?
La fiabilité peut venir depuis la collecte, la saisie informatique, la vérification, jusqu'au niveau où on met à disposition ces données. Au niveau du questionnaire, si le questionnaire n'est pas adapté ou est mal préparé, on risque d'avoir une non-fiabilité. La non-fiabilité des données aussi peut venir des enquêteurs. S'ils ne sont pas bien formés, s'ils ne sont pas bien supervisés, on peut avoir des problèmes de fiabilité. Bon, les personnes mal intentionnées peuvent aussi dénaturer les données. Ça peut arriver. Les statistiques sont incontournables, finalement.
Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite Hamadou Moumouni pour le forum du studio Kalangou. Bonne réception.